Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on est pour le deuxième épisode du cycle de conférences sur le système pénal et carcéral qui s'appelle Si le système prison m'était compté. Ce soir, on va parler de féminisme et particulièrement de féminisme anticarcéral. Et pour ça, j'ai la très très grande joie d'accueillir Gwenola Ricordo et Françoise Vergès que je vais présenter dans quelques instants. Pour revenir un petit peu sur ce cycle de conférences, on l'a réfléchi autour de trois grands axes. La semaine passée, on a parlé de racisme et du racisme systémique en fait qui a lieu dans le système pénal et ses répercussions dans le système carcéral. Et on a reçu Maître Selma Benkhalifa et Luc Verwaert. La semaine prochaine, on va parler pour le dernier épisode du lien entre le système pénal et le système capitaliste. Est-ce que l'un a besoin de l'autre, vice-versa? Et pour ça, on va recevoir Harold Sachs de l'Observatoire des prisons et Anis Engel, des économistes atterrés, qui a notamment travaillé sur la question du système pénitentiaire. Et le dernier rendez-vous, ça sera le 9 avril, où cette fois-là, on se retrouvera exclusivement sur Zoom, en petit comité, et pas en Facebook Live, et on essaiera d'écrire une position sur le sujet pour écologie en général, et on fera ça avec notre députée fédérale de référence ici en Belgique pour écolo, qui s'appelle Claire Hugon. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, quelques petites explications techniques. On va d'abord avoir une discussion toutes les trois avec Gwenaëlle et Françoise sur des questions préparées. Vous m'entendez bien?
C'est un peu parfois haché pour moi.
Ah mince, je vais parler peut-être un petit peu moins vite, comme ça, si ça hache, on m'entendra bien. Donc, je disais qu'on va d'abord avoir une conversation toutes les trois avec des questions préparées à l'avance. Et puis ensuite, on ouvrira les questions au public et on aidera nos intervenantes. Vous pouvez évidemment poser vos questions directement sur Zoom. Si vous êtes sur le Zoom, il y a un onglet prévu à cet effet. Et si vous êtes sur le Facebook Live, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et mon assistant du jour, qui s'appelle Nicolas, m'enverra les questions que je pourrais poser à Gwenola et Françoise. Alors, je vais commencer tout doucement par présenter nos deux intervenantes du jour. Alors, on a d'abord Françoise Vergès, qui est une politologue et surtout une grande militante féministe française, qui est spécialisée dans l'histoire coloniale française et qui articule dans ses réflexions les luttes féministes et décoloniales. Elle a écrit notamment les ouvrages Le ventre des femmes et Un féminisme décolonial. Et puis on l'a invitée ce soir particulièrement parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Une théorie féministe de la violence et qui vise à déconstruire ce que moi j'appellerais l'obsession punitive de l'État et qui vient même contaminer la pensée féministe et ses mouvements associés. On a aussi Gwenola Ricordo qui est là avec nous ce soir, qui est professeure de justice criminelle à l'Université d'État de Californie et qui est auteure d'un livre qu'on a lu tous ensemble dans le groupe de travail qui organise cette conférence et qui s'appelle Pour elle, toutes femmes contre la prison. Et elle milite justement pour l'abolition du système pénal. J'espère que ces descriptions conviennent et si vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou une précision, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça a l'air d'aller, donc on va pouvoir tout doucement passer au premier axe des questions. Alors, mon premier axe de questions concerne les femmes et les minorités de genre au sein de la prison. Quels sont leurs profils? Quelles sont les conditions de détention particulières et les violences spécifiques qui sont liées auxquelles sont confrontées les femmes et les personnes transgenres ou les personnes cuir en général au sein des prisons? Donc, il y a plusieurs sous-questions dans cette question. Vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a une répartition genrée particulière dans les prisons? Est-ce que toutes les femmes, tous les profils de femmes sont susceptibles d'être incarcérées ou pas? Et donc, est-ce qu'il y a des violences spécifiques qui ont attrait au genre, à l'orientation sexuelle ou à l'expression de genre, etc. Pour cette première question, je propose au hasard de commencer par Gwenola et puis Françoise. Et puis pour la question suivante, on fera dans l'autre sens. Comme ça, c'est équitable. Donc voilà, Gwenola, c'est à toi.
Ok, merci. Merci pour cette invitation à discuter
féminisme, abolitionnisme pénal. Tu commences par une très vaste question et bon, je vais donner que quelques éléments de réponse. Mais tout d'abord, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit que l'institution carcérale est une institution qui a d'abord été pensée par des hommes, pour des hommes, et que les femmes ont toujours été une forme d'exception et une minorité qu'on a essayé d'accommoder et d'ajuster un certain nombre de choses à leur spécificité. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit parce que ce qu'on observe aussi au cours de l'histoire, c'est que non seulement les femmes ont toujours été une minorité parmi les personnes qui étaient détenues, mais qu'elles ont tendance à diminuer, et là, je parle plutôt assez exclusivement des pays occidentaux. Et donc, c'est une règle dans la plupart des pays occidentaux d'avoir moins de 5% des femmes, moins de 5% des personnes incarcérées qui sont des femmes, avec quand même une exception. Aujourd'hui, les États-Unis, où les femmes sont la population qui continue à augmenter parmi les personnes qui sont incarcérées dans un contexte plutôt de diminution du nombre de personnes incarcérées. Et donc, je pense que c'est d'abord ça qu'il faut avoir à l'esprit lorsque on réfléchit à la place des femmes en prison. L'autre chose qui me semble importante encore une fois dans cette description du contexte, c'est la question que vous posez de qui sont les femmes judiciarisées, incarcérées. Et là, ce qu'on peut dire de façon extrêmement rapide, c'est que pour l'essentiel, elles ont un profil qui ressemble assez largement au profil des hommes incarcérés, que ce soit notamment en termes de caractéristiques de classe, et donc elles viennent pour l'essentiel des classes populaires, mais aussi elles sont en très grande partie issues de l'histoire de l'immigration et de l'histoire de la colonisation, mais il y a aussi des spécificités qui sont propres aux femmes incarcérées, et notamment la question de la victimation sexuelle et des violences domestiques. Alors cette victimation, elle n'est pas la raison principale pour laquelle elles sont incarcérées, mais ces violences sont intervenues à un moment donné dans leur trajectoire de vie qui explique à un moment donné leur judiciarisation, voire leur incarcération. Et puis la deuxième caractéristique spécifique aux femmes incarcérées, bah c'est, et là je parle des femmes qui sont incarcérées pour les plus longues peines, c'est la question des dynamiques de genre. En fait, dans les actes pour lesquels elles sont incarcérées. En clair, les hommes qui sont incarcérés pour des longues peines ont parfois des complices qui sont des femmes, mais pour l'essentiel, c'est des hommes qui ont fait des actes seuls ou des hommes qui ont fait des actes avec la complicité d'autres hommes. Et ça, on voit ça très, 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 très exceptionnellement du côté des femmes qui sont incarcérées pour des actes particulièrement graves. C'est-à-dire qu'en clair, elles ont pour l'essentiel des complices qui sont des hommes ou des hommes qui sont les victimes de leurs actes. Et donc, il y a des dynamiques de genre et souvent des dynamiques de violence ou d'emprise liées au rapport de domination liées au genre et donc qui participent de leur criminalisation. Et dernière remarque, parce que il y avait tellement d'aspects dans votre question, évidemment ça amène beaucoup beaucoup de commentaires à la question de quelle manière les femmes sont affectées lorsqu'elles sont judiciarisées ou criminalisées. Vous avez évoqué les personnes transgenres. Je vais juste me contenter d'un commentaire et qui va être une façon de revenir un peu au tout début de ma réponse. Quand je vous ai dit le système carcéral a d'abord été pensé par des hommes pour des hommes, ce qu'on a vu aussi dans l'histoire de la prison, et là aussi c'est un mouvement général tout au long du 19e siècle, enfin avec des chronologies différentes évidemment selon les contextes, mais c'est une institution qui de plus en plus a reposé sur des formes de ségrégation sexuelle. Et donc aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, la prison repose sur une séparation des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que moi et d'autres, on parle plutôt de prison pour hommes et de prison pour femmes, pour rappeler que toutes les femmes ne sont pas incarcérées dans des prisons pour femmes et que dans les prisons pour femmes, il n'y a pas que des femmes. Et c'est sans doute, en tout cas d'un point de vue militant, c'est souvent l'une des premières revendications des mouvements qui luttent en faveur des droits des personnes transgenres judiciarisées. C'est en fait la reconnaissance de différentes identités de genre et donc la fin de cette ségrégation basée sur des caractéristiques généralement biologiques. Et du coup, je pense que après, une fois qu'on a posé ce contexte-là, on peut voir plus précisément de quelle manière les personnes transgenres sont affectées spécifiquement. Bon, bref, par le système pénal, et je m'arrête là.
Super, merci beaucoup.
Bonsoir. Donc, merci François, pour si cette invitation. Puis, je suis très contente aussi d'entendre Gwenola Ricordo, dont j'admire beaucoup le travail et que j'ai beaucoup lu et que ça. Et qui a répondu beaucoup plus précisément que je ne peux le faire, puisque c'est quand même son domaine. Parce que moi, si vous voulez, la prison, je m'y suis intéressée, la prison des femmes, surtout autour des militantes de colonisées qui ont été en prison, qui ont été envoyées en prison. Donc, c'est de ce côté-là que je me suis intéressée à la prison, notamment pendant la guerre d'Algérie, les Algériennes, et la relation entre prison, torture et condamnation à mort, et la dénonciation de la prison. Et à travers ça, donc la question de la prison pour ce qu'on appelle les politiques, et comment ça reste un endroit de répression autour du militantisme politique. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait. Je ne veux pas dire que c'est la seule chose, évidemment, mais c'est surtout là-dessus que moi je peux dire dont je peux dire quelque chose. Et les luttes des femmes prisonnières politiques pour se faire reconnaître, la question de la torture dans les prisons, et donc toute cette spécificité qui reste quand même très en deçà de l'image du prisonnier politique, qui quand même domine, hein, comme dans les récits, dans la représentation d'ailleurs, même dans le film, dans le cinéma, dans la télévision, dans toutes les séries où on voit surtout, donc, si on voit des hommes, des prisonniers politiques, on voit des prisonniers et rarement des prisonnières politiques. Or, il y a eu énormément de prisonnières politiques et ça reste un endroit de prison. Donc, c'est ça, et aussi ce qui m'a intéressé, ce dont je parle aussi, c'est les prisons militaires aujourd'hui, c'est-à-dire Guantanamo ou évidemment Abu Ghraib ou d'autres prisons ou des prisons aujourd'hui. Donc, c'est un peu, je ne peux pas vraiment répondre à la question, et je pense que Gwenola a beaucoup mieux répondu que moi à cette question spécifique que vous posez. On pourra parler de ce qui, moi, m'a intéressé dans la prison et de ce que ça reste aujourd'hui et de ce que, d'ailleurs, le travail qu'ont eu des prisonniers politiques en Espagne ou en Italie, pour parler de l'Europe, ou même en France, dans la critique de la prison comme mode de répression de l'État.
Merci beaucoup à toutes les deux pour votre réponse. Et on va passer quelque part un peu au cœur du sujet de pourquoi on vous a invité ce soir. C'est la question du lien entre le féminisme et la question carcérale. Et donc, il y a encore de nouveau plusieurs questions dans cet axe, notamment de savoir pourquoi, d'après vous, ce n'est pas exactement féministe de vouloir utiliser la sanction pénale, de vouloir réduire quelque part la question des violences masculines, les violences faites aux femmes, par le biais de la sanction pénale et de l'enfermement. Pourquoi, selon vous, d'ailleurs, on continue à être fort coincé dans cette vision-là? Pourquoi est-ce que pas mal de mouvements féministes et sans doute avec beaucoup de bonne foi, continuent à militer pour que les peines de prison soient plus longues, plus lourdes, et que les auteurs soient plus sévèrement condamnés. Une autre sous-question par rapport à ça, que vous pourrez répondre dans un deuxième temps, qui est pas mal vaste, je l'avoue, c'est de savoir si un jour, dans plusieurs centaines d'années, on arrive à faire brûler les patriarcats, est-ce que ça aurait encore du sens d'avoir un système pénal et d'avoir des prisons? Et dernière sous-question, mais je pourrais vous les rappeler en cours de route si vous ne s'en souvenez plus, c'est la question des victimes. C'est vrai qu'on entend souvent, et même moi dans mon groupe féministe, quand on discute de cette question, il y a toujours la question de savoir, oui mais les victimes, qu'est-ce qu'on en fait si les auteurs ne sont pas punis au sens où on l'entend communément, c'est-à-dire ne sont pas enfermés, ne purgent pas de peine Est-ce que ça veut dire quelque part qu'on ne reconnaît pas les victimes et qu'on ne leur offre pas la possibilité de se reconstruire? Voilà, donc la première question, je vous rappelle, c'était le lien entre la question d'être féministe et d'être anticarcérale. Donc Françoise, je vous laisse commencer du coup pour ça.
Merci. Oui, bon, moi, évidemment, je pars toujours de ce qui, pour moi, est au cœur du système aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la construction d'une organisation raciale et sexiste, patriarcale, capitaliste de la société, et qui est fondée sur la violence, dont la violence est inséparable, intimement liée à cela. Intimement lié à l'extractivisme, donc à la destruction et à l'épuisement des corps dans cette économie extractiviste. Et donc d'une économie de la mort, on pourrait dire, hein, vraiment profondément. Et à l'intérieur de ça, la construction de certaines fragilités, de certaines femmes fragiles, et notamment par exemple sous l'esclavage, où la femme blanche est vue comme fragile, qui a avec un sentiment de maternité, mais qui a besoin d'être protégée par son père, son frère, son mari. Et à l'opposé de ça, la femme noire qui n'a pas besoin du tout d'être protégée, qu'on fait travailler aussi durement que les hommes, donc où là le genre ne fonctionne pas, qui enceinte doit accoucher dans un coin du champ le dernier jour, à qui on ne donne aucune journée pour son nouveau-né, et qui donc à la fois, donc il n'y a pas du tout la question de la protection, elle va être traversée par la racialisation. Il n'y a pas de donc protéger les femmes ne va pas être universel. Il y a une protection pour certaines, et pas une protection pour d'autres. Et à la fin, alors à la fois donc le genre sous l'esclavage, mais après aussi sous le capitalisme, il est à la fois le genre féminin. Il est pour les femmes racisées, aussi bien pour les femmes de classe populaire plus tard en Europe, il existe parce que quand même, on sait que c'est les femmes qui font la reproduction, et en même temps, il est nié. Donc, à la fois, les femmes racisées ou de classe populaire sont des femmes, parce qu'on peut donc, et puis en même temps, elles sont niées en tant que femmes, c'est-à-dire que alors que de plus en plus de protections sont faites pour les femmes et les enfants, il n'y a pas du tout de protection. Et moi, c'est cet écart qui est toujours fait entre celles qui doivent être protégées, celles qu'on doit protéger, les femmes, les enfants, et celles qui ne seront pas protégées, parce qu'elles sont exclues de cette politique de la protection. Donc, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'universalité de la protection. Et donc, cette idée justement de la protection, que beaucoup d'ailleurs de féministes ont critiqué, en montrant que c'était une protection tout à fait sélective, et une protection qui n'était pas du tout à appliquer, et qui en fait était surtout pour protéger les femmes blanches et bourgeoises, et qu'en utilisant les outils du maître, pour paraphraser donc Audre Lorde, on n'allait pas détruire la maison du maître. Et qu'en utilisant donc les outils de la protection que l'État offre, et là, par exemple, on sait que la philosophe Elsa Dorna a fait toute une analyse de ça, en disant qu'en fait, l'État étant le principal instigateur des inégalités, que c'est celui qui institutionnalise la violence sociale, il est vain de lui demander protection. Il est vain de lui demander, puisqu'il arme ceux qui frappent les femmes. Donc, ce n'est pas à l'État, vers l'État qu'on veut se tourner. Et je rappelais dans mon livre qu'en fait, même en Europe, dans les années 70, donc là je le saute aux années 70, il y a eu des discussions très très vives dans les mouvements féministes sur justement, fallait-il demander de plus en plus de lois? Fallait-il vraiment, pour justement, notamment au moment du viol, il y a eu des débats très très vifs, surtout en Italie, dans le mouvement italien, mais aussi en France, dans le mouvement féministe français, sur fallait-il, évidemment que le viol devait être un crime, mais fallait-il demander protection à la loi et faire en sorte que ce soit la police et le tribunal qui gèrent les questions. Et notamment les féministes italiennes étaient absolument opposées, beaucoup étaient totalement opposées à cela, avec les arguments que plus tard Elsa Dorna va exposer, qu'on ne pouvait pas demander à l'État de protéger un État qui était donc un État fasciste, qui lui-même armait et reproduisait la violence. Donc cette violence qui je pense aujourd'hui se déploie encore plus violemment, qui est absolument globalisée au point où qui est, de manière on ne sait plus comment l'arrêter, et on voit qu'elle n'est pas simplement le fait de la domination masculine, elle n'est pas seulement le fait d'hommes qui seraient méchants, mais elle est absolument structurelle, ce qu'on appelle structurelle et systémique. Sayek Valencia, qui est une féministe mexicaine, parle de gore capitalisme, gore au sens comme les films de gore, quoi. C'est-à-dire le fait d'une masculinité qui repose sur la capacité d'infliger la mort, de violer, de démembrer. Et que c'est cette capacité, cette aptitude à infliger la mort qui fait de vous, qui peut faire de vous un homme. Donc, elle interroge aussi cette masculinité qui est liée aujourd'hui au déclenchement de ce qu'on a appelé la nécropolitique, on pourrait parler autrement. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, même aujourd'hui, si vous voulez, c'est dans la question donc, des féminicides ou de la question du viol qui est absolument effrayante, de quelle peut être la réponse politique à ce déchaînement de violence aujourd'hui. Mais déchaînement de violence, comment définir le crime, ce crime aujourd'hui, non pas comme un élément simplement de la violence masculine, mais comme un élément absolument incontournable, indispensable au règne de la terreur que doit avoir le capitalisme, sinon les choses s'écroulent. L'extractivisme. Aujourd'hui, dans les plantations, par exemple, en Amérique centrale ou en Afrique, les plantations de cacao ou d'huile de palme, c'est comme les plantations de l'époque coloniale, le viol systématique des femmes. C'est d'instituer la terreur par le viol. C'est absolument là. Et aussi, d'ailleurs, le viol des hommes. Donc, une militarisation aussi de la protection, c'est-à-dire la protection ne va se faire que si on accepte la militarisation de l'espace public, la surveillance et du contrôle, l'État est de plus en plus au service de cette violence et de moins en moins un État protecteur de ses citoyennes et citoyens, s'il n'a jamais tellement été, et les lois de protection qui ont été prises ont été sous la poussée des luttes, même de protection sociale. L'État ne les a jamais octroyées sans qu'il y ait des luttes. Pardon. Et donc, pour moi, le carcéral, d'envoyer par exemple les hommes en prison, de se dire que par exemple aujourd'hui en France, si on prend la France, tous les deux jours une femme meurt sous les coups de son compagnon ou d'un proche, ça voudrait dire que donc tous ces hommes, il faut les envoyer en prison. Je veux dire, la prison n'a pas arrêté, n'a pas mis fin aux violences, ne met pas fin. Je veux dire, il y a quelque chose de vraiment d'inséparable dans le régime actuel économique et politique. Ce qui ne veut pas dire que peut-être si ce régime était terminé, donc là je viens après la question que vous posiez sur les victimes de violences, si on rendait évidemment... si on dépassait le capitalisme racial, l'extractivisme et cette économie absolue, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de violence? Je ne pense pas, je ne suis pas du tout dans cet idéalisme. Je pense que d'un côté, quand vous dites les victimes, que faut-il faire? Il faut continuer à rendre l'État responsable de sa propre responsabilité, du fait qu'en fait, il ne fait que protéger certaines personnes qui continue à pratiquer une ségrégation raciale et sociale dans la société, hein, partout, et qui se protège de cette perversité, on pourrait dire, c'est le fameux en même temps du gouvernement actuel, hein, en même temps on va faire des lois qui vont protéger, puis en même temps on précarise de plus en plus, on vulnérabilise de plus en plus les femmes qui travaillent, les femmes qui travaillent des classes populaires et les femmes racisées. Donc, je pense que la question de se réapproprier la protection, pour notamment les questions d'associations d'autodéfense, de femmes qui s'organisent pour se protéger, et c'est une des choses. Je pense aussi qu'aujourd'hui, la question de la masculinité, de cette masculinité qui est proposée comme étant la seule possible, enfin, la seule qui garantisse une existence à la société doit vraiment être posée. C'est-à-dire que vraiment, enfin peut-être moins en Europe, enfin j'en sais rien, mais quand on est un peu dans le global, on voit bien que la seule chose qui est proposée aux jeunes hommes, c'est la violence comme possibilité d'exister, de s'en sortir. Puisque vous êtes un jeune homme, vous avez en tout cas votre force physique pour pouvoir vous imposer. parce que sinon, je trouve que oui, l'analyse de Sayag Valencia est très, très pertinente là-dessus, sur cette question de violence absolument systémique et structurelle, et qu'on ne peut pas parler de victimation et des femmes sans analyser ce déchaînement encore plus, parce qu'évidemment, la violence a toujours existé, hein, c'est pas nouveau qu'il y ait des massacres et des génocides et des destructions, mais aujourd'hui, l'économie capitaliste néolibérale et raciste, le capitalisme racial, semble toucher tous les coins de la terre et rien ne semble échapper. Et il y a une augmentation de la violence qui a été étudiée par des sociologues ou d'autres pour montrer à quel point les personnes peuvent être acculées, mais vraiment acculées, qu'il n'y a rien d'autre que d'avoir recours à la violence pour au moins même manger ou survivre. Et il y a donc quelque chose à affronter qui n'est peut-être pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais que la question de se tourner vers le carcéral comme solution ne fait que perpétuer pour moi la violence. Quenola a étudié ces questions des prisons, puis moi je suis allée dans des prisons pour d'autres raisons, et je ne peux pas comprendre comment on puisse souhaiter d'envoyer des personnes en prison. On puisse penser que la prison soit un lieu, même de punition, c'est une punition extrêmement cruelle et brutale, et certainement pas un endroit où la personne va comprendre qu'elle a peut-être un cas sur je ne sais grand bien, et qu'elle va comprendre qu'elle a fait quelque chose et qu'elle aurait dû. Pour moi, la prison est à détruire. Vraiment, c'est absolument un endroit de destruction profonde des personnes. C'est un endroit de violence pour à la fois pour les personnes qui y travaillent et pour les personnes qui sont emprisonnées. Donc, il faut faire l'effort d'imaginer autre chose. Et vous le dites, oui, quand les gens, bien sûr, je pense que plein de personnes pourraient témoigner que dès qu'on dit ça, on vous parle de l'assassin de la petite fille ou de la vieille dame, et que comment alors est-ce que vous êtes pour ça, vous ne voulez pas les punir. Mais même cette notion de punition, je pense, est à reconsidérer. Mais voilà, je veux quand même laisser un peu.
Merci beaucoup, Françoise. Juste pour rebondir quelques petits instants, et puis Gwenola pourra sans doute dire ça mieux que moi, mais ce que ça m'inspire, c'est que finalement, on voudrait quelque part réparer la violence en envoyant des gens dans des milieux qui sont encore plus violents et qui vont les pousser à être encore plus violents. Il y a quelque chose de... Moi, ce que je m'étais dit, c'est mais qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a envoyé tous les auteurs de violence en prison? Il reste, c'est tragique à dire, mais assez peu d'hommes finalement dans la société. Et qu'est-ce qu'on veut en fait? C'est quoi l'horizon qu'on se donne avec ça? De se dire on va envoyer des gens qui ont commis des actes de violence dans un endroit qui va juste les détruire, comme Françoise l'a dit. Il n'y a pas d'horizon en fait, il n'y a pas de fin à ce système-là. Et c'est vraiment ça qui pour moi ne fait pas de sens en tant que féministe. Donc voilà, je voulais juste partager cette réaction que ça m'a inspirée. Et voilà, grâce à toi.
Oui, alors, juste parce que Françoise Vergès, la façon dont vous avez parlé de mon approche de la prison était, pas exactement la façon dont moi-même je parle de mon approche de la prison, parce que j'ai d'abord eu des proches incarcérés et ça a été la raison pour laquelle je suis devenue abolitionniste. Donc je suis pas simplement une scientifique et j'ai pas simplement été en prison pour des raisons de travail et la question des proches.
Excusez-moi, je suis allée en prison pour visiter mon père. Bon, c'était pas pour des raisons.
Oui, non, mais c'est juste dans votre formulation, on avait l'impression que j'étais juste une chercheuse et voilà. Et toute ma carrière universitaire et mon parcours de militante se sont nourries les unes les autres et D'un point de vue politique, je tiens beaucoup à la question de la politisation, de la question des proches de détenus. Et voilà, et je pense que comme c'est quelque chose qui est très important dans mon parcours à la fois académique et militant, je voulais quand même dire ceci. Alors après, c'est vrai que moi, ma façon de répondre à tes questions, Chloé, moi, je me situe donc dans un courant qui est celui de l'abolitionnisme pénal, qui est traversé par énormément de débats sur la stratégie abolitionniste, des débats qui sont très très riches hein, depuis les années 70, et puis des débats qui aussi sont venus parfois en confrontation avec les courants dominants du féminisme, surtout pendant ces dernières décennies. Et du coup, bah, je voudrais quand même clarifier quelque chose sur l'abolitionnisme, enfin ce qu'on entend généralement par abolitionnisme, parce que c'est vrai que c'est parfois entendu de façon extrêmement large, c'est parfois réduit à la question de la prison, mais on peut dire qu'il y a trois pôles hein, de l'abolitionnisme et que ce qu'on entend généralement par abolitionnisme, c'est travailler par ces trois pôles, donc en gros depuis les années 70, c'est la question de la prison, du système pénal et de l'enfermement. Et du coup, bah, la question de la punition, elle traverse ces trois pôles, ces trois tensions de l'abolitionnisme pénal, mais en même temps, on ne peut pas réduire l'abolitionnisme pénal ni à la question de la prison, ni à la question de la punition. Et puis lorsqu'on regarde précisément les pensées abolitionnistes et même les mouvements abolitionnistes, ben on voit que certains sont plus sur ce qu'on appelle la ligne du minimalisme pénal et du coup sont en difficulté sur la question de ben, comment on fait avec certaines personnes les plus dangereuses et puis donc ça revient à l'exemple que vous donniez comment on fait avec l'assassin de la petite fille, etc. Mais je pourrais y revenir, mais je pense que c'était important d'avoir à l'esprit que en fait, en tout cas, moi lorsque je parle d'abolitionnisme, je parle de cet abolitionnisme qui est en tension entre ces trois pôles. Et ça me permet de rappeler quelque chose qui est important à mon sens. En tout cas, c'est la perspective que je défends, c'est que on peut être abolitionniste et féministe sans pour autant faire de cette position abolitionniste une sorte de code moral ou de code de conduite aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, dans un État capitaliste, dans une société patriarcale. Et en clair, il ne s'agit pas de dire aux victimes « ne portez pas plainte ou ne recourez pas au pénal ». Le recours au système pénal est un luxe que peuvent se permettre certaines femmes, c'est un luxe de ne pas recourir aussi au système pénal lorsqu'on a beaucoup de ressources qui permettent d'avoir accès à d'autres formes de protection. Et donc, bon, j'ai souvent cette formule, mais pour moi, le recours au système pénal, c'est un échec collectif, hein, c'est pas une question de code de bonne conduite individuellement. Je dis ça parce qu'il s'agit surtout de ne pas culpabiliser les femmes et les victimes de façon générale qui, pour quelle que soit leur raison, peuvent avoir affaire au système pénal. Et là, du coup, ça me permet de tirer un peu le fil sur une perspective stratégique que je défends, qui est celle de l'autonomisation du système pénal. Et donc de chercher à construire des espaces qui permettent d'éviter de recourir au système pénal, justement. Et donc des espaces collectifs de ressources. Alors, ça rejoint très, très largement ce qu'on appelle aujourd'hui la justice transformative. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, la justice transformative, hein, c'est pas la justice restaurative, c'est pas ce qu'on appelle la justice réparatrice qui est mise en place par le système pénal, mais donc cette idée de construire des espaces d'autonomie, des espaces de ressources, des espaces aussi d'expérimentation. Et là, j'en viens à votre deuxième question de bah, qu'est-ce qu'on ferait sans le patriarcat? Il est nécessaire d'expérimenter aujourd'hui, mais en tout cas, dans le courant dans lequel je me situe, celui de l'abolitionnisme, On a tendance à répéter, et ça depuis Mathiessen et sa formule, comme quoi l'abolitionnisme est par nature inachevé, hein, et d'où cette expression qui revient sans arrêt dans les écrits abolitionnistes d'un imaginaire abolitionniste. On est sur une position qui est celle de l'expérimentation, de l'imagination, et donc de cet appel à la créativité humaine, avec, alors si je peux continuer sur cette idée-là, c'est que c'est il y a bien cet appel à l'imagination et à la créativité qui permet déjà de se rendre compte que le système pénal, c'est une anecdote dans l'histoire de l'humanité, hein, en termes d'existence du système pénal. La prison est encore plus une anecdote dans l'histoire des sociétés humaines, c'est-à-dire que toutes les sociétés humaines ont eu bien évidemment tout un tas de manières de régler les comportements déviants, les comportements non conformes, hein, de répondre à des comportements qui n'étaient pas attendus des personnes. Mais par contre, l'idée qu'il fallait recourir à l'enfermement et recourir à la punition, ça c'est quelque chose, hein, qui est lié à l'invention occidentale de la prison, qui s'est diffusée à travers l'histoire de la colonisation. Donc c'est une histoire relativement anecdotique. Cet appel à l'imagination, c'est aussi une manière de nous rappeler que, et là je rebondis aussi sur un, je crois que c'était votre troisième question du, mais pourquoi il y a cette prégnance de la pensée punitive? Ben, ça permet justement de souligner cette caractéristique aujourd'hui des sociétés occidentales. Alors, une auteure comme Ruth Morris parle de sociétés qui sont pénalo-dépendantes, hein, comme si on était nous-mêmes dans nos vies dépendants du système pénal. Et on le voit de façon extrêmement fréquente, hein, lorsque on voit des victimes qui sortent d'un tribunal et disent « je vais enfin pouvoir faire mon deuil », hein, elles sont bien là dans l'expression de cette dépendance au système pénal, alors ce qui est toujours extrêmement triste, puisque toutes les victimes n'ont pas droit à un procès, parce que y a des auteurs qui ne sont pas retrouvés, il y a des auteurs qui sont morts, il y a des auteurs qui ne peuvent pas être jugés parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces victimes-là à qui, en gros, la société dit, en fait, pour se reconstruire, il faut passer par le système pénal. Et donc, c'est vrai que cette dépendance au système pénal, elle affecte énormément les victimes, puisque avec cette dépendance au pénal, il y a aussi l'idée que pour se reconstruire ou faire son deuil, ben, il faut avoir un procès. Et là, j'en viens à votre, au dernier aspect de ta question sur les victimes. Et là aussi, c'est un peu, enfin, ça va être un peu pour moi une manière de répondre à ce qui est souvent mal compris de l'abolitionnisme pénal, puisque très souvent, nous, les abolitionnistes, on nous dit « mais alors, les victimes hein, ?» Et c'était la fameuse question de « mais quoi pour l'assassin de cette petite fille, les violeurs, etc. » Et en fait, cette question, elle relève d'une incompréhension ou d'une méconnaissance assez réelle de ce qu'est l'abolitionnisme pénal, qui, au contraire, met en avant les besoins des victimes et dit, mais en fait, regardez quels sont les besoins réels des victimes et regardez comment le système pénal y répond, mais extrêmement mal, et on peut faire le pari qu'il y a énormément d'autres façons de répondre aux besoins des victimes que la manière dont y répond le système pénal. Alors, moi, ce que, avec cette nuance, que certains besoins des victimes, enfin, certaines victimes trouvent avec la réponse du système pénal des réponses à leurs propres besoins. Et je pense que quand je dis ça, je parle spécifiquement du besoin de reconnaissance des victimes. Mais le besoin de reconnaissance des victimes, le besoin d'être reconnu comme une victime, or non seulement il est loin d'être systématique, et notamment lorsqu'on parle des violences à caractère sexuel, des violences domestiques, enfin bon, beaucoup de violences, de types de violences qui sont faites aux femmes, ce besoin de reconnaissance, il n'est pas le seul besoin qu'ont les victimes. Hein, et là aussi, je m'inscris beaucoup dans dans la continuité des travaux de Ruth Morris sur, avec un texte que j'aime beaucoup sur les besoins des victimes, où elle parle aussi du besoin de sécurité des victimes, et on voit que le système pénal répond aussi assez mal à ça. Classiquement, on dit que le système pénal sert notamment pour mettre hors d'état de nuire une personne. Alors, c'est souvent aussi cadré dans le temps, mais on sait que le besoin de sécurité, on n'y répond pas simplement en enfermant quelqu'un. Hein. Le fait d'être victime, c'est aussi, ça impacte beaucoup d'aspects de la vie, et on peut avoir peur non pas simplement de l'auteur de certains faits, mais d'une façon générale, hein, d'avoir ce sentiment d'insécurité prégnant dans sa propre vie. Et puis, on peut avoir peur que les faits se reproduisent à un autre moment avec un autre auteur. Donc, le besoin de sécurité, il n'y est que très partiellement répondu. Et puis, il y a le besoin de mettre du sens sur les faits qui ont été commis. Et là aussi, hein, le moment du procès pénal répond assez peu à ce besoin-là, parce que les personnes qui sont poursuivies en justice ne sont évidemment pas encouragées à donner du sens aux actes qu'ils ont faits. Ils sont encouragés à se défendre, à nier les faits, la gravité des faits, à donner des excuses qui sont parfois revictimisantes pour les victimes. Et puis, il y a ce besoin qui est le besoin de réparation, où là aussi, le système pénal est très faiblement armé pour répondre à ce besoin. Hein, le besoin de réparation est un besoin extrêmement complexe, un besoin qui est aussi quelque chose qui évolue dans le temps, qui est très différent d'une personne à une autre, et qui ne peut pas se réduire à un face-à-face entre un auteur et une victime, hein, mais qui est beaucoup plus un processus collectif de comment on fait ou on refait société. Donc, pour peut-être redire les choses, ce qui me semble important, c'est d'abord de se dire que l'abolitionnisme pénal, c'est certes la prison, mais bien au-delà, tous les processus de judiciarisation, quelles sont les institutions qui sont à l'œuvre, et que oui, on peut créer des espaces d'autonomie, et que il faudrait d'une façon très générale, enfin, s'il y avait une recommandation à faire au mouvement féministe, de partir davantage des besoins des victimes et de comment on répond aux besoins des victimes, plutôt que de s'intéresser à la punition de certains auteurs, parce que lorsqu'on utilise un marteau qui est aussi inégalitaire que celui du système pénal, ben on sait que quand on fait appel à davantage de système pénal, en fait, on appelle à davantage criminaliser les hommes des milieux populaires, les hommes issus de l'immigration et de l'histoire coloniale, et que du coup, ben, cet appel à criminaliser certains hommes aussi, en ricochet, bah, ça a un effet sur les femmes de ces milieux-là, parce que la solidarité est attendue des femmes. Et donc, quand on criminalise certains hommes, en fait, le poids du système pénal va aussi retomber sur certaines femmes. Et ça, c'est quand même un des grands impensés des mouvements dominants du système du féminisme. Les mouvements dominants du féminisme pensent beaucoup les femmes comme des victimes. Ils pensent très rarement les femmes comme étant victimes du système pénal, comme étant criminalisées. Et ces courants-là pensent aussi très peu la question de comment les femmes sont affectées par l'existence du système pénal à travers la criminalisation, la judiciarisation des hommes. Je m'arrête là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions encore.
Non, mais c'était super instructif. On a déjà pas mal de questions, donc on va pouvoir, je pense, revenir sur certaines choses qui ont été dites. Peut-être avant de passer à la dernière question sur les autres formes de justice et les alternatives auxquelles on peut penser, j'ai peut-être demandé à François s'il y a une chose ou l'autre sur laquelle vous voudriez rebondir ou compléter avec un autre point de vue.
Non, je vois pas. Je pense, si vous voulez, je vois la prison. Enfin, je veux dire, moi, je vois la prison parce que bon, j'ai signalé que j'avais visité mon père en prison à partir de la question du monde colonial. Donc, c'est pas ça raccorde à énormément de choses que dit Gwenola, puisqu'on a décidé de s'appeler par mon prénom, mais c'est ça et à la fois un petit peu autre chose. Donc, et cette autre chose, c'est pas tellement que ça serait différent ou que, par exemple, les punitions seraient différentes ou l'emprisonnement, c'est que le rôle que la prison a joué dans la colonie et continue à y jouer encore aujourd'hui. Quand je dis les colonies, c'est pas les post-colonies, c'est pas les pays qui sont devenus indépendants, mais les territoires qui sont toujours soumis à la colonialité française, c'est-à-dire bon, tout ce qu'on appelle l'outre-mer. Et que là se pose une autre histoire de la prison et une autre histoire des personnes emprisonnées et surtout aussi une autre histoire de ceux qui font de ceux qui font justice, de ceux qui font la loi, qui décident la loi. Ce sont des tribunaux. Alors bon, ici en France, on verrait évidemment des hommes surtout et des bourgeois, mais là-bas, c'est que des blancs, ce qu'on appelle des blancs. Et c'est extrêmement, c'est très clair. Et c'est aussi une justice qui parle français, avec une des populations qui ne parle pas toujours le français, ou qui ne maîtrise pas toujours le français. Donc ça rajoute, enfin vous me direz qu'ici aussi en France, ça se passe la même chose avec des populations qui n'ont pas du tout la même maîtrise du français que le tribunal. Mais je ne voudrais pas non plus réduire la question de ce qu'on appelle la question de la racisation à simplement une question d'ajout. Il y a très le rôle que joue la prison, qu'a joué la prison dans le système de terreur et de d'ordre, de maintien de l'ordre dans les colonies ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'outre-mer. Pose de cette justice transformative d'y ajouter ce chapitre, de tenir compte de ce chapitre. Alors là, les féministes, enfin les féministes, je ne dirais pas les féministes parce qu'il y a quand même des féministes, mais il y a un féminisme français qui est totalement indifférent à cela, est totalement, absolument indifférent, déjà indifférent à ce qui se passe en France réellement, et alors là, ce qui se passe dans les Outre-mer, totalement indifférent, mais vraiment, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Le fait que, par exemple, les prisons soient surpeuplées, encore plus surpeuplées dans les Outre-mer qu'en France, n'entre même pas dans le tableau. Donc, c'est simplement pour dire que, et ce que d'ailleurs soulignait Gwenola d'une certaine manière, qu'il y a aussi des situations chaque fois plus générales et puis très particulières aussi et donc la prison en Mayotte n'est pas la même chose qu'en France, qui n'est pas la même chose qu'en Guadeloupe, qui n'est pas la même chose qu'en Nouvelle-Calédonie, et parce qu'en plus là, il y a une histoire coloniale et raciste beaucoup plus prononcée encore qu'en France, même si évidemment en France, elle est très présente. Mais particulièrement, par exemple, si je pense à ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, c'est totalement scandaleux, bon, et ça n'apparaît pas sur la carte. Donc, c'est aussi à l'intérieur du féminisme français, la carte de ce féminisme français qui reste indifférent aussi donc, aux femmes et comment le système pénal criminalise aussi donc, les compagnes ou les femmes qui sont autour des prisonniers. Et ça, c'est très important. Et effectivement, là, dans ce qu'on appelle ces outre-mer, il y a encore quelque chose qui s'ajoute à cette criminalisation. Donc c'est simplement ça, la violence qu'on peut appeler coloniale, même coloniale, post-coloniale, peu m'importe, enfin celle qui est là aujourd'hui, elle perdure de manière, elle perdure dans ses liens avec ce qui était le système colonial racial. Fortement.
Oui, merci. Ça me fait penser à quelque chose que Luc Verwaert avait dit la semaine passée, qui était que finalement, en tout cas aux États-Unis, on a remplacé un système de travail forcé d'esclavage par un système carcéral. Et c'est ce que vous venez de dire, ça me fait aussi penser à ça, qu'il y a une prolongation de la violence à travers l'histoire et qui reste bien là. Pour introduire un peu la dernière question, on l'a dit tout à l'heure, finalement, un des problèmes avec le système carcéral, c'est qu'on reste dans un mode de réponse très masculin au sens de masculinité toxique. On va répondre à la violence par la violence. Une des réponses à ça pourrait être justement, comme Françoise l'a dit tout à l'heure, d'offrir un autre horizon aux hommes en général, une autre version de la masculinité. Et puis, en dehors de ça, de travailler sur la déconstruction d'une certaine forme de masculinité, il y a d'autres choses aussi tout à fait concrètes qui sont des alternatives aux formes de justice. Et Gwenola a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais on va pouvoir développer ça un peu plus profondément. Est-ce que justement, Gwenola, vous voulez nous parler un petit peu de ces alternatives, ce qu'elles recouvrent, les différences et peut-être ce pourquoi vous, tu, pardon, milites au quotidien?
Alors, oui, je peux en dire quelques mots. Après, je suis un peu gênée par le vocabulaire des alternatives, parce que justement, l'histoire du système pénal, et en particulier l'histoire de la prison, se nourrit de ce discours sur les alternatives. Hein, et bon, je renvoie à Foucault et en particulier à une conférence qu'il avait donnée spécifiquement sur cette question des alternatives. Et c'est les discours réformistes autour de la prison et du système pénal reviennent sans arrêt sur la question des alternatives et nous proposent sans arrêt des alternatives qui ne font que nourrir le système pénal et en fait étendre ce qu'on appelle le filet pénal. Et donc, ce terme d'alternative est extrêmement piégeux en soi. Alors, c'est évidemment pas une accusation contre vous de l'utiliser, mais c'était plus une mise en garde que je voulais faire sur donc cette histoire des alternatives. Et en fait, lorsqu'on regarde l'histoire de la prison, du système pénal, on voit que le système pénal met en avant dans son discours sur la réforme la promotion d'alternatives. Et sans doute que le dernier épisode en date sur cette question, c'est la loi Taubira sur la justice restaurative, hein, qui a été promue sous forme, encore une fois, des alternatives à l'incarcération, hein, avec la probation, avec la justice restaurative, etc., hein, les rencontres entre auteurs et victimes, et que finalement, hein, le système pénal s'accommode fort bien de la promotion de ces alternatives. Hein. Auparavant, on a eu l'épisode du bracelet électronique, auparavant, on a eu encore le travail d'intérêt général, etc., etc. Donc, je pense que c'est important, en tout cas d'un point de vue abolitionniste, de faire une rupture avec ce discours sur les alternatives. Et c'est pour ça que, comme je le disais précédemment, je suis plus du côté de ces appels à l'autonomisation, à ne pas nourrir la bête et donc à pas nourrir des procès contre l'État, à chercher à responsabiliser, hein, par exemple les procès contre le système pénal, les procès contre la police, c'est pas du tout le genre de stratégie auquel moi j'adhère, hein. Alors après avec le respect des diversités stratégiques, mais je pense que il est en tout cas, d'un point de vue abolitionniste, il est plus important de mettre notre énergie dans la construction d'alternatives plutôt que de chercher la reconnaissance par le système pénal et par l'État de ses propres dysfonctionnements, de ses propres limites, hein, et par exemple autour des violences policières, des crimes d'État, des crimes policiers, des crimes pénitentiaires. Alors, autre chose sur ces questions stratégiques, c'est aussi d'insister sur le fait que d'un point de vue, enfin, en tout cas de mon point de vue abolitionniste, la question, elle est évidemment pas simplement celle du féminisme et du système pénal. On ne peut pas simplement penser l'abolition du système pénal sans penser l'abolition du capitalisme, sans penser l'abolition des rapports coloniaux, des rapports de race, mais aussi d'un certain nombre de rapports d'autres rapports de domination. Je pense notamment au validisme, la question de l'institutionnalisation de certaines personnes est aussi une question extrêmement importante, à mon avis, dans la pensée abolitionniste, ou du moins dans les courants abolitionnistes. Donc, c'est pas simplement une question féministe, à mon sens. Et que, alors là, si on en revient à la question étroite des mouvements féministes, ce qui émerge aussi, c'est un féminisme qui aurait tendance à s'intéresser et à visibiliser peut-être la question des femmes incarcérées, avec cette idée qu'il faudrait améliorer la condition des femmes en prison. Alors, ce mouvement-là, il est beaucoup plus évolué en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, avec donc ce supplément d'âme qu'on va avoir des mouvements féministes relativement bourgeois ou de classe moyenne, et qui vont s'intéresser à certaines catégories de femmes, ce qui n'est pas totalement nouveau dans les courants réformistes de la prison. Hein, au début du XXe siècle, on a eu aussi beaucoup de courants parmi les féministes qui se sont intéressés à la condition des femmes blanches en prison. Et je dis bien la question des femmes blanches en prison, si on pense par exemple aux États-Unis, hein, où c'était prendre en charge les prisonnières blanches et les faire sortir de prison, contrairement aux femmes noires qui étaient africaines-américaines, qui étaient pensées comme ayant d'une certaine façon leur place en prison et étant destinées à ce travail de force qui allait avec l'incarcération. Et donc, je dis ça parce qu'il faut se méfier toujours de la question de la visibilité. La visibilité ne va pas forcément avec des approches radicales, on le sait bien, ça a même plutôt tendance d'abord à tendre vers des approches réformistes, et que demain on parle davantage des femmes en prison ne veut pas forcément dire qu'on parlera davantage d'un point de vue radical et d'un point de vue abolitionniste, hein, et que l'histoire de la réforme de la prison, c'est une histoire d'amélioration des conditions de détention, très souvent pour des catégories spécifiques, des catégories qui sont pensées comme excusez-moi, il y a des anglicismes qui me viennent à l'esprit, mais comme des populations qui sont plus méritantes, hein, c'est souvent cela que de telle façon que ça va être dit. Alors, on va penser à l'amélioration des conditions pour les détenus malades, ou l'amélioration des conditions de détention pour les femmes, amélioration des conditions de détention pour les personnes LGBT. Tout ça ne remet évidemment pas en cause la question fondamentale, qui est celle de l'existence de la prison et de quelle manière elle impacte non pas simplement les gens qui sont à l'intérieur, mais au-delà des catégories entières de la population, et donc son rôle social, hein, le rôle de contrôle des populations pauvres, et donc son rôle dans le système capitaliste. Je m'arrête là.
Merci. Françoise?
Oui, les remarques sur la question qu'il y aurait des alternatives sont évidemment tout à fait un piège, puisque, en fait, pour revenir à la citation juste un tout petit peu d'Audre Lorde, c'est-à-dire c'est pas avec les outils du maître qu'on va démanteler la maison du maître. Et elle parlait justement de la question des réformes dans son adresse, donc quand elle répondait aux femmes blanches là dans cette conférence, en disant tout au mieux, bon, ça peut nous sauver un petit peu pendant les moments. Et donc comment s'attaquer à cette maison qui repose d'ailleurs sur la prison, qui ne peut tenir que sur la prison. Donc il y a déjà, je pense qu'il n'y a pas que toutes ces questions de réforme sont effectivement des pièges. Et il y a aussi pour moi ce que je disais un peu en début, c'est-à-dire que je suis frappée par l'accumulation de lois de protection au moment même où de plus en plus de lois sont prises qui augmentent la précarisation et la vulnérabilisation des femmes, des classes populaires, des racisés. C'est très clair en France, par exemple, en ce moment, c'est en même temps. Tout à fait, là, il y a tout des tas de lois qui vont passer, il y a eu des lois sur le harcèlement sexuel dans la rue. Bon, je prends le cas de la France, hein, on pourrait parler d'autres. Et pendant ce temps-là, les femmes sont absolument, les femmes des classes populaires, les femmes racisées sont de plus en plus confrontées. On l'a vu encore avec la pandémie qui a absolument frappé les quartiers populaires, frapper les métiers dits essentiels qui étaient tenus par des femmes racisées de classe populaire et des hommes aussi racisés de classe populaire. Donc, la protection et même donc les alternatives à l'intérieur de cette politique de la protection où on va quand même améliorer un peu les choses parce que justement ça rentre dans une idéologie libérale se font au même moment que la précarisation et la vulnérabilisation augmentent à la fois au nord global et encore plus dans le sud global. Il y a de plus en plus de ce que Ruth Wilson Gilmore appelle de la fabrication une mort prématurée. Il y a de plus en plus de fabrication de cela. Mais c'est très réel, c'est pas une formule du tout. Des tas d'endroits, les personnes meurent plus tôt. Et on l'a vu encore d'ailleurs avec la pandémie. Donc il y a une mort prématurée qui est fabriquée. Donc il y a des enfants qui naissent qui auront une vie plus courte que d'autres enfants. Donc à l'intérieur de ça, la question donc de cette protection qu'offrirait le système pénal est absolument, on voit bien que c'est comment dire la poudre aux yeux, comme on dit, je crois la formule. Parce que masque le fait d'une incroyable militarisation de l'espace, une militarisation qui rend encore plus précaire et encore plus fragile. On sait que les villes, il n'y a pas de sécurité dans les villes. Les villes sont inhospitalières aux femmes, aux personnes non valides, aux maghrébins, aux arabes, aux noirs, aux personnes sans logis, aux réfugiés, aux migrants. Et que, justement, cette sécurisation de la ville où la ville deviendrait plus safe, enfin plus... Enfin, moins hostile aux femmes, c'est pour une certaine catégorie de femmes. On sait que, donc, n'entreront pas. Donc, il y a toute une série de choses qui sont mises en place aujourd'hui qui renforcent la ségrégation et même donc les réformes dont parlait, que détaillait Gwenola, pour moi, font partie de cet renforcement d'espace, de séparation d'espace, de l'espace qui va être sécurisé et de l'espace qui sera absolument sous surveillance, militarisé et pas sécurisé. Et donc, je ne vois pas. Donc, par exemple, même toutes ces choses, le bracelet électronique, toutes ces choses-là ne font faire croire que ça va être possible de contenir la violence. Mais cette violence, je le répète, elle est structurelle au système d'extractivisme. Le système d'extractivisme ne peut pas fonctionner sans cette violence. Ce n'est pas possible. Personne ne va accepter. Donc, il faut l'imposer. Donc, il faut frapper, il faut emprisonner, il faut criminaliser des tas de personnes. Il faut que des personnes soient criminalisées, que leur acte soit criminalisé et ensuite que leur emprisonnement soit justifié. Renforce le sentiment. Gwenola en a parlé bien tout à l'heure. Il y a le désir, donc cette pénalodépendance, c'est-à-dire le fait que de faire croire que la sécurité, on va l'avoir, plus on fera que les peines seront lourdes et que les gens seront envoyés en prison. Or, il y a de moins en moins de sécurité, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement d'être protégé de la violence ou du crime, c'est qu'il y a une violence économique, une violence sociale, une violence culturelle qui est là constamment. Et donc, cette saturation quotidienne par la violence qui pose question et que c'est certainement pas donc le carcéral qui va répondre à cela et même les réformes du carcéral. C'est pas parce qu'on va être gentil en prison que la violence va ou que les personnes violentes vont arrêter. Et ensuite, effectivement, le fait de Wallena rappelait quand même à juste titre que la prison a été faite par des hommes pour des hommes. Et il y a une question là qui se pose, c'est-à-dire les corps des hommes, les hommes qu'on envoie en prison. Qui sont ces hommes? Donc, c'est le fait que le système repose sur le fait que des hommes sont massivement envoyés en prison. Certains hommes, pour que la sécurité ou l'ordre règne, enfin, que quelque chose. Et il y a quelque chose quand même là-dedans où on voit que ce système repose sur la domination par certains hommes, sur aussi d'autres hommes qui sont donc criminalisés et qui, comme Renaud l'a rappelé, criminalisent aussi leur famille et leurs proches. Et donc, il y a quelque chose là que les réformes de, comment dire, d'améliorer la prison, de la rendre, je sais pas, plus humaine, ce qui est quand même pour moi un oxymore total, va arranger les choses. Donc, quelles seraient, comment penser autrement? Je pense que on ne peut pas penser que la prison en dehors de tout cela. La prison, ce saut dans l'imagination qu'il faut faire, il ne concerne pas que la prison, puisque la prison est un des éléments de la possibilité que ce régime perdure. Sans prison, je veux dire, la prison est un des éléments, c'est pas le seul élément. Et puis c'est vrai que du coup, à se focaliser sur le procès, on le voit même d'ailleurs sur la question des crimes policiers, où les familles de victimes vont être poussées à dire comment la personne était innocente, la personne qui a été tuée. Et la question n'est pas son innocence, elle peut avoir même volé, enfin peu importe, on ne tue pas quelqu'un. La police n'a pas le droit de tuer. Donc d'être fort, d'être poussé dans la respectabilité, hein, parce que la respectabilité nous protégerait, enfin protégerait, et qu'en fait ce sont donc des pièges. Donc c'est vraiment de casser ce couvercle à la fois de bons sentiments, de rassurants, et en même temps en France on voit que c'est de moins en moins rassurant, puisqu'on a quand même un ministre de l'Intérieur et d'autres ministres qui quand même déclarent beaucoup plus clairement que la politique actuelle sera celle de l'ordre militarisé et policier, et qu'en même temps tient un discours de droit des femmes et attaque justement certaines communautés parce que ces communautés sont criminalisées parce qu'elles ne respecteraient pas l'égalité naturelle qui serait naturelle entre les femmes et les hommes. Donc il y a une criminalisation aujourd'hui en France, en tout cas au nom des droits des femmes. Ces communautés ne respectant pas l'égalité entre les femmes sont criminalisées. Donc il y a un en plus de la criminalisation aujourd'hui et qui départage les hommes qui donc peuvent être criminalisés et les autres. Donc ces questions de que faire de la prison pour moi est liée au démantèlement de tout ce système, parce que la prison en est un des éléments, pas le cœur, pas simplement le cœur, parce que l'armée, pour moi, est extrêmement et fait partie aussi des instruments absolument terribles de l'État aujourd'hui. Et donc, c'est la question de l'État tel qu'il est, l'État patriarcal, raciste et du capitalisme aujourd'hui, et puis de l'impérialisme aussi, de cette criminalisation et comment cette criminalisation conduit à la naturalisation, à la normalisation du pénal et de l'enfermement. Donc c'est pour moi c'est ces questions-là, et c'est d'arracher la notion de protection à l'État. Hein, pour reprendre le champ de l'asthésis, l'État c'est toi le violeur. Si l'État est le macho violeur, et donc d'arracher la question de la protection et de repenser effectivement la question à partir d'une autonomie, de repenser l'autonomie. Et d'arracher et de penser qu'il faut arracher. Donc, par exemple, ces questions aujourd'hui, alors une femme a été tuée par son compagnon, elle avait porté plainte 5 fois auprès de la gendarmerie n'a pas fait grand-chose. Donc, il faudrait renforcer le fait que la gendarmerie fasse plus. Mais on sent bien que quoi, il y avait 2 gendarmes qui vont l'accompagner chaque fois. Il y a, je veux dire, le dernier meurtre, le mec attendait la femme devant chez elle, lui a flanqué 2 coups de batte de baseball, l'a tuée, elle avait porté plainte. Alors on reproche à la police, à la gendarmerie de ne pas faire. Mais ça voulait dire quoi? Donc on sent bien qu'il y a une question qui n'est pas abordée en fait dans ces faux débats, qui est une question qui n'est pas abordée et qui est que, est-ce que je redis ce que disait Elsa Dorna, c'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui arme les personnes. Ces personnes. Et donc, on ne peut pas lui demander d'être le protecteur. L'État, il a à sa disposition la police, le tribunal, l'armée, la prison. Je pense que ce n'est pas Et donc, la prison est un moment dans l'histoire, vous le rappelez, Gwenola n'a pas toujours été là, mais elle a effectivement, elle a été un des forts instruments de l'État moderne et colonial, l'État colonial et capitaliste. Donc, c'est un effort d'imagination qu'il faut faire. C'est vraiment. Et puis une autodéfense, l'organisation aussi en autodéfense. Il y a plusieurs réponses à avoir à cela.
Merci à toutes les deux. C'est hyper riche comme échange parce que je trouve qu'à la fois, on a parlé de concrètement ce qui ne va pas dans le système pénal et carcéral, que ce soit les conditions de détention, la surpopulation, mais aussi, comme Gwenola l'a dit, à quel point finalement le système ne répond pas aux besoins des victimes qu'on prétend mettre au centre, mais qui finalement ne le sont pas. Et puis, on parle aussi beaucoup de ce qu'est le système pénal et carcéral, et pour moi, je le comprends comme ça a été dit, un symptôme, pas forcément le cœur, mais en tout cas un symptôme de cette espèce de créature à plusieurs branches qui tient bien ensemble, qui est, comme ça a été dit, le système capitaliste extractiviste, qui a besoin, pour se maintenir, de détruire, d'asservir des corps, et certains corps en particulier, les corps féminins, les corps racisés, les corps féminins et racisés, donc qui est lié à l'histoire coloniale et au racisme qui perdure de manière systémique. Et tout ça qui finalement donne lieu à un système qui repose sur une logique extrêmement violente et on pourrait dire patriarcale. Donc tout ça est très vaste, hyper stimulant intellectuellement et j'aime beaucoup quelque part reprendre un peu la formule qui a été donnée que l'abolitionnisme, c'est un horizon, c'est quelque chose qu'on doit imaginer et c'est un travail toujours en progrès. Et je trouve que ça donne un peu des ailes de se dire que... Il y a des choses à construire derrière tout ça. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose, mais sinon, on a pas mal de questions des spectateurs et spectatrices que je peux déjà vous soumettre pour continuer la discussion, si ça
vous
va.
Oui, poser des questions. Oui.
Super. Je vais vous en poser une chacune pour commencer. Alors, on avait une question pour Françoise qui nous demande « Vous avez évoqué les critiques spécifiques par rapport aux prisonnières de guerre sur le système carcéral, donc quelles ont été ces critiques spécifiques énoncées par certaines prisonnières politiques et de guerre sur le système carcéral? Est-ce que vous pourriez en quelques minutes développer un petit peu? Et puis la question pour Gwenola, ce serait est-ce qu'on a des choses à dire sur les femmes qui deviennent mères en prison? Quels sont leurs droits avant, pendant, après? Comment ça se passe pour ces personnes qui finalement deviennent parentes en prison? Donc, peut-être Gwenola autre... d'abord, vu qu'on a fini.
Juste une réaction à chaud, c'est que c'est une question qui revient de façon très routinière. Dès qu'on parle des femmes en prison, la maternité des femmes en prison. Alors, ce n'est pas une question qui est totalement anecdotique, mais... qui est quand même un peu symptomatique de ce qui est attendu des femmes. C'est ma réaction à chaud, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise question, mais c'est intéressant de voir que quand même dans le système carcéral, là je parle un peu en généralité dans les pays occidentaux, justement a des attentes très spécifiques sur les femmes incarcérées pour en termes de conformité donc à des attentes de genre, que ce soit des attentes de compagne, alors là dans le cadre hétérosexuel, de bonne mère, etc. Hein, les femmes sont sans arrêt renvoyées à ça, que ce soit à travers les formations qui leur sont proposées, à travers le type d'emploi qui est proposé en prison, et puis après aussi dans les jugements, hein, lorsqu'on regarde comment les dynamiques dans des débats dans les tribunaux, et puis les dynamiques autour des aménagements de peine. Et donc, bon, je serais aussi heureuse d'échapper à toute cette discussion sur la maternité des femmes en prison, parce que certes, il y a beaucoup de mères en prison, mais il n'y a pas que des mères. Et d'ailleurs, c'était alors dans la façon dont les prisonnières et dans les mouvements de prisonnières, il y a eu cette critique de l'institution carcérale, est souvent revenue la question de comment la prison est pensée pour les femmes comme une succursale du foyer domestique, hein, et comment justement il faut s'attaquer enfin, à la façon dont la prison comment dire ça, comment les normes patriarcales infuse le fonctionnement de la prison. Et donc ça revient très régulièrement dans les écrits de prisonnières, de prisonnières politiques également. Et donc voilà, si on pouvait sortir un petit peu de ça.
Ok,
Sur
merci. Voilà.
les prisonnières politiques, ça a toujours été bon. D'une part, il y a plusieurs aspects. D'une part, c'est une histoire moins bien connue que celle des hommes prisonniers politiques, des gens. Les grands noms, les grands récits de prison politique sont souvent associés à des hommes, Nelson Mandela, Gandhi, tout cela, et rarement à des femmes qui ont connu aussi, par exemple, des choses aussi longtemps. Et la question du prisonnier politique, c'était souvent bon, de s'organiser très, très rapidement, et ensuite, comme d'ailleurs les hommes prisonniers politiques, de critiquer la prison comme espace patriarcal et de faire et aussi d'organiser des liens avec ce qu'on appelle les prisonnières de droit commun, de faire sauter cette division en disant que tout le monde était prisonnier politique, parce qu'il était prisonnier politique de cet État, et que la femme qui avait volé un carnet de chèques était aussi politique que celle qui avait, par exemple, je sais pas, s'était opposée à l'État, à une guerre, bon, avait pris les armes contre un État. Ça, c'est une chose. Et la manière aussi, donc, parfois, des critiques sur les femmes qui étaient traitées, c'est-à-dire une espèce de maternalisme, d'essayer de les remettre dans l'ordre du féminin, et qu'elles critiquaient pour être donc aussi traitées comme des personnes politiques, avec une pensée politique. Alors, ça, il y a eu déjà, pour ce qui est de la France, ça a été un peu connu, ça a été d'abord connu à travers la guerre d'Algérie, puisque les femmes prisonnières pendant la guerre du Vietnam, c'est pratiquement jamais parvenu en France, tellement cette question, ni les femmes pendant la guerre au Cameroun, la guerre française au Cameroun, ou les femmes malgaches pendant l'insurrection. Donc, il y a encore pas mal de travail d'ailleurs à faire là-dessus. On connaît plus les prisonnières politiques espagnoles ou en Italie, en Espagne sous le franquisme et en Italie, et même quelques-unes en France. Mais voilà, donc ça a été beaucoup, très rapidement, une critique de la prison comme lieu patriarcal et de domesticité, et de réclamer donc d'être pas dans des femmes au sens du féminin, de l'hétéronormativité, mais des politiques. Ça, et puis aussi d'affirmer que toutes les prisonnières étaient des prisonnières politiques, autant celles qui avaient accusées d'infanticide ou d'autres. Et les textes, bon, surtout, évidemment, il y a pas mal de textes aux États-Unis de femmes noires, mais aussi quand même des textes qui viennent d'Amérique centrale du Sud et aussi d'Afrique, Afrique du Sud surtout. Mais même aussi, il y a des textes qui viennent de prisonnières politiques du Kenya qui sont assez. Et aujourd'hui, il y en a eu plus récemment qui ont été traduits, qui viennent aussi de l'Asie, et qui sont vraiment, qui sont une critique aussi de l'héroïsme attaché à l'homme prisonnier politique, de faire une critique de cet héroïsme masculin. Donc, il y a plusieurs aspects.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Je vais poser deux questions que vous pourrez répondre chacune votre tour. La première est assez vaste. Est-ce que l'abolition du système pénal actuelle, est-ce que c'est envisageable si on ne sort pas du système capitaliste extractiviste dont on a parlé? On a plus ou moins un peu esquissé une espèce de réponse, mais on pourra revenir là-dessus. Et la deuxième question, elle est plus pratico-pratique. Est-ce que vous connaissez des exemples, et vous pourriez peut-être en parler, de systèmes qui rendent justice aux victimes de manière différente? Est-ce que notamment ça existe peut-être dans des sociétés matriarcales ou non occidentales ou autres? Du coup, on va reprendre Gwenola puisque c'est Françoise qui vient de parler. Voilà.
Ok, et je voyais sur le chat une question de Yago, je ne suis pas sûre de bien prononcer votre nom, excusez-moi par avance. Oui, c'est un texte de Ruth Morris, il sera disponible en français à partir du 14 mai dans un petit recueil de textes de pionniers de l'abolitionnisme, des textes inédits en français que je préface. Donc voilà, je peux donner les références plus précisément ailleurs. Il faut que je ferme la fenêtre du chat. Et du coup, une des questions qui était posée, c'était sur des formes donc non punitives ou non pénales de rendre justice. Alors là aussi, souvent cet appel aux sociétés matriarcales. Je trouve ça toujours un petit peu gênant parce que, et là aussi, là, ça permet aussi de revenir à l'histoire de l'abolitionnisme. L'abolitionnisme s'est nourri de pratiques traditionnelles, de cultures généralement non occidentales, de traiter les situations problématiques, pour reprendre l'expression de Lucus Mann. Donc, il y a eu toute cette inspiration qui, d'ailleurs, a nourri le mouvement de la justice restaurative. Hein, tout ce déploiement-là des conférences familiales, des conférences de réparation qui se sont développées à l'initiative donc notamment du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Il y a eu toute cette inspiration qu'ont voulu trouver des réformistes occidentaux auprès de cultures non occidentales. Alors, ça peut paraître comme ça dans un premier temps une forme de progressisme. Je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est aussi une forme d'instrumentalisation et c'est aussi parfois une charge qui va retomber sur ces communautés victimes de la colonisation, de peuplement, qui vont être à la fois victimes de l'existence du système pénal et puis qui vont avoir aussi une injonction à recourir à leur système traditionnel de résolution des conflits, pas exactement de la manière dont ils l'entendaient, donc avec ce passage par finalement la matrice du système pénal occidental et qui en fait une version finalement compatible avec un système de valeurs blanc ou colonial. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas en tant qu'abolitionniste, en tant que... Alors après, ça dépend où on se situe aussi géographiquement, culturellement, selon nos histoires personnelles. Mais en tout cas, je pense que ces dernières années, il y a eu au sein des mouvements abolitionnistes beaucoup de réflexions sur quelle est la place que l'on fait à ces cultures qui servent d'inspiration pour qu'elles ne soient pas instrumentalisées et pour éviter des formes d'exotisme, des formes de fétichisation. Et ce qu'on remarque de façon critique, et là je le dis bien en tant que personne qui se reconnaît dans le mouvement abolitionniste, c'est vrai que quand je lis certains écrits d'il y a plusieurs décennies, ben on voit qu'il y a des facilités de recourir à des exemples, alors soit de sociétés du passé, soit des sociétés contemporaines, mais d'espaces qu'on connaît relativement mal. Et donc on va comme ça assez facilement, mais de façon, il faut le dire, raciste, mobiliser des sociétés. Alors, on va mobiliser un exemple d'une société matriarcale qu'on connaît finalement assez mal, et du coup, en servir d'exemple. Là, ça permet aussi de parler. Alors moi, j'habite en Amérique du Nord, j'habite en Californie, dans dans une situation de colonie de peuplement, avec donc des peuples qui subissent l'existence à la fois de la colonisation, mais aussi l'instauration d'un système pénal. Et je pense que le travail décolonial passe aussi par cette reconnaissance qu'on ne peut pas juste utiliser comme ça des exemples pour soi-disant nourrir notre futur ou notre présent révolutionnaire. En tout cas, le travail décolonial, c'est bien autre chose que de dire oui, bon, on n'a qu'à faire des cercles de discussion comme font les Amérindiens. Là, je caricature un peu, mais malheureusement, quand on se plonge des fois dans des débats du passé, et j'ai fait beaucoup de débats sur l'abolitionnisme, ça revient quand même assez fréquemment. Hein, alors, c'est aussi d'une façon générale, les Amérindiens, les sociétés matriarcales, les sociétés en Océanie. Donc, c'est aussi un rappel, et je pense que ça a déjà été abondamment fait ici, mais que la colonisation, un des outils de la colonisation, ça a été aussi le système pénal. Et en tant qu'occidental, notre responsabilité, c'est le démantèlement de se situer par rapport à l'histoire coloniale, de se situer dans une lutte à la fois anticoloniale, anti-impérialiste, mais aussi de procéder au démantèlement de ce système qui aujourd'hui affecte tellement les sociétés les communautés colonisées.
Merci.
Oui. J'ajouterais en plus qu'il y a une idéalisation de ces sociétés, de la manière dont elles auraient réglé les conflits, comme si il y a un désir à travers ça, outre le désir colonial là, dont il a été question, il y a un désir de rêver d'un être humain qui dépasserait les conflits, qui ramènerait la paix et l'ordre, et qui du coup revient à l'idée occidentale d'un être rationnel qui va faire exercer sa raison et sa morale. J'y crois pas beaucoup de toute façon. Ça c'est une chose. D'autre part, je pense qu'il y a aussi, moi je pense pas tellement bon à ce que les Occidentaux font tellement. Enfin, j'ai pas envie de parler de ça là, puisque Gwenola en a parlé très bien. Mais je pensais justement, par exemple, en Afrique, aux populations qui ne trouvent que la manière de demander la justice ne fait qu'aggraver les choses, ne fait qu'aggraver les situations de conflit, que ça prend énormément de temps de dépatouiller pourquoi. Tel ressentiment qui date de je ne sais pas combien de décennies et que des Occidentaux qui arrivent peuvent trouver ça bien ridicule, mais bon, enfin quand même, c'est le passé. Et donc de détricoter tout ça, qui prend le temps et qu'il faut le temps et qu'il faut trouver quelque chose au bout d'un moment. Et là, par exemple, dans le nord du Burkina Faso, où il y a énormément de problèmes, des villages ont décidé donc de réunir et d'envoyer, et c'est des hommes, il faut le dire, parce que c'est pour parler à des jeunes hommes qui ravagent la région, d'aller discuter avec eux pour voir comment faire descendre le degré de violence. Donc, ça va se passer dans le temps. Il n'y a pas du tout de résolution immédiate. C'est impossible. Et donc, c'est pas certainement pas la guerre qui va arriver ou l'armée occidentale arrive pour imposer la paix et remettre, et en général, d'ailleurs, redessiner des frontières comme ce qui a été fait dans l'ex-Yougoslavie et qui n'amène pas tellement la paix. Donc, rétablir la paix dans des situations de conflit, c'est très long, c'est très lent, c'est très compliqué. On le voit même d'ailleurs dans les mouvements sociaux, au travers de conflits. Donc la question de surmonter les conflits, de ce qui fait conflit, de ce qui fait, et donc dans des questions de violence, il y a un conflit, il peut avoir un désir de revanche ou de vengeance qui est tout à fait compréhensible. Moi, par exemple, personnellement, je suis pas au-dessus de ça. Il peut m'arriver des moments où je rêve de quand même de coincer quelqu'un dans un coin et de lui casser la figure. Bon, je ne veux pas dire aux personnes, mais ça ne se fait pas. Cette question morale. Donc, pour moi, cette question de détricoter les conflits aujourd'hui est une question extrêmement importante parce que, en fait, il n'y a plus de pensée La pensée, c'est l'état de guerre permanent aujourd'hui. Il y a un état de guerre permanent. Et donc, dans cette guerre, il faut savoir qui va pouvoir être le plus fort pour imposer la paix. Et donc, peut-être que l'abolitionniste, c'est cette pensée de faire, de sortir justement de la guerre au conflit, de la guerre à la violence, par la violence, et de comment sortir ce conflit. C'est pas du tout facile, et les solutions, évidemment, d'essayer de voir les sociétés matriarcales et de les idéaliser en plus, n'arrange pas les choses, mais c'est cette question du temps, de la réparation, moi qui m'intéresse, ça prend du temps. Or, le pénal, en fait, l'idée qu'on peut se faire, c'est d'une résolution assez rapide. Et en fait, c'est de se redire que ça prend du temps. On peut pas surmonter. On voit bien dans les questions aujourd'hui de réparation, par exemple, qui font partie de la justice, d'une idée de justice, que c'est, on est en 2021, il n'y a aucune réparation aujourd'hui. On pensait pour l'esclavage et le colonialisme, pour la violence contre les femmes, les violences systémiques depuis des décennies. Il n'y a aucune pensée des réparations. Alors, quand je dis réparation, c'est pas du tout le côté justement de la justice occidentale, il faut trouver le coupable, le punir, il est responsable, il y a un procès, tout ça, et puis il va en prison. Donc, ça ne résout pas cette question. Pour moi, c'est aujourd'hui aussi. De faire un saut imaginatif dans ce que seraient ces politiques de réparation. Comment réparer les sociétés qui sont saturées par la violence, parce que la violence leur est imposée par l'État, leur est imposée par l'impérialisme, le capitalisme, les violences qui se déchaînent dans les pays du sud global à cause de l'impérialisme et de l'extractivisme sont absolument... Comment va-t-on réparer ces sociétés très malmenées, extrêmement malmenée, extrêmement maltraitée, et il suffit de voir et de mesurer la difficulté. Et ensuite de se poser la question de justement de malheurs, enfin de malheurs qui vont être irréparables, qu'il ne s'agira pas là de justice au sens quelle qu'elle soit, mais de réparation communautaire. De restaurer quelque chose par la communauté. Tous les traumatismes, puisque pour utiliser ce terme, que laissent derrière elles les guerres, et particulièrement contre les femmes. Aujourd'hui, la guerre qui est menée contre les femmes dans les guerres, et donc comment... donc quelles vont être les politiques de réparation, et pas une justice réparatrice, mais de réparation au sens politique du terme, de ces réparations dont ont parlé les peuples colonisés, ou aujourd'hui les communautés racisées continuent à parler de ça. Donc cette réparation, je ne parle pas de la réparation au sens judiciaire du terme. Donc c'est d'admettre la difficulté de cela, le temps qu'il faut, qu'il n'y aura pas qu'il n'y a pas de solution facile, qu'il y a aussi des expérimentations à faire, et de prendre chacune, et puis il y a des situations qui vont demander certaines formes et d'autres qui vont demander d'autres formes, et c'est d'être particulièrement à l'écoute des personnes qui sont les personnes concernées. Et vraiment, et ça, de pas, les solutions qui viennent d'en haut ne pourront pas résoudre cela.
Ok, finalement, on pourrait dire que quand on a puni, quand on a enfermé, on a rien réparé. Et pour réparer, il faut placer ceux qui ont été victimes de cette violence au centre. Sinon, finalement, on ne sort pas de ce cercle de conflit, cercle de violence. Je voulais d'abord juste m'excuser pour tous les gens qui ont posé des questions sur le chat et sur les commentaires, parce qu'on ne va pas pouvoir y répondre à toutes, parce que je crois qu'il nous faudrait une deuxième conférence. Alors, ce serait vraiment avec grand plaisir, mais pas ce soir, parce qu'on avait prévu un timing et qu'on va essayer de s'y tenir et qu'on arrive à la fin. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit au tout début, on va parler du lien entre système carcéral et système capitalisme et la justice de ce qu'on peut appeler la justice de classe. Alors, je vois que, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une question sur ce sujet-là qui a été posée à nos invités. Et donc, du coup, je vais peut-être vous laisser un mot de la fin pour nous faire un petit teaser sur la question du système capitaliste et répondre en quelques mots à la question. Est-ce que le système pénal tient sans capitalisme et est-ce que le capitalisme tient sans système pénal? Gwenola, du coup, en premier.
Non, d'accord. Non, mais ma réponse, elle est très rapide, elle est non. Et je vois dans le chat, il y a des questions fort intéressantes d'Axel. Et désolé qu'on ne puisse pas y répondre de manière détaillée, mais merci de citer Capitalisme carcéral de Jackie Wang. Je pense que c'est une très bonne lecture sur cette question du capitalisme. Alors après, avec un contexte très états-unien et qui, quand même, lorsqu'on lit ce livre et ses analyses depuis l'Europe, appelle pas mal de commentaires parce que la manière dont se tricotent les liens entre système carcéral et système policier et capitalisme sont différents, alors sont peut-être une forme avancée du capitalisme aux États-Unis qu'on verra un jour arriver en Europe. Je pense que c'est une bonne manière de rappeler et de mettre en garde que lorsqu'on se focalise trop sur la prison, on oublie en fait qu'il y a un déploiement gigantesque de technologies de surveillance et que, pour reprendre l'expression d'Angela Davis, la prison risque bien un jour d'être obsolète, mais le risque, c'est que la prison ne disparaisse pas suite aux luttes anticarcérales et aux luttes anticapitalistes, mais bien parce que, d'un point de vue économique, elle ne sera plus rentable, hein, il sera beaucoup plus rentable, voire il est peut-être déjà aujourd'hui plus rentable, d'avoir des personnes qui sont assignées à résidence ou dont les mobilités sont réduites par des systèmes de vidéosurveillance qui, aujourd'hui, hein, le bracelet électronique est quasiment une technologie qui est dépassée. On va avoir toute une génération de nouvelles applications avec reconnaissance faciale, algorithmes, etc., qui vont permettre, hein, de reléguer la prison à un outil de surveillance du passé. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'un point de vue militant de pas être en retard d'une guerre, hein, parce que, en tout cas pour moi, la guerre contre la prison va certainement être une guerre du passé très très prochainement. Donc, élargissons la focale des luttes des luttes abolitionnistes. Et puis il y avait une question qui était soulevée, qui était celle des rapports entre abolitionnisme pénal, enfermement, et est-ce que c'est totalement imaginable de penser une société sans enfermement? Alors, dans les débats abolitionnistes, c'est vrai qu'on discute beaucoup de la question de la coercition et de quelle place réserver à des formes de coercition. C'est vrai qu'il y a beaucoup parmi les penseurs abolitionnistes, cette idée qui revient que, ah, finalement, il sera très difficile d'échapper au recours à des formes de coercition dans des situations de danger immédiat. Donc, c'est une sorte on pourrait dire de résidu qui arriverait, qu'on essaierait de plus en plus de réduire. Ça fait l'objet de débats. Je n'ai pas de réponse très ferme là-dessus. Je trouve que c'est une question qui peut-être se posera pour les générations à venir et que le rôle de nos générations aujourd'hui, il est déjà suffisamment vaste et on a déjà beaucoup à expérimenter avant d'être face à ce résidu de coercition auquel il faudra peut-être un jour s'attaquer.
Sur les questions de le système carcéral, enfin la prison, On a déjà de toute façon, oui, ce qu'on connaît des systèmes de surveillance qui ne font pas appel. On sait bien que parfois, c'est même plus, il n'y a pas besoin de condamner à la prison, on condamne à la mort. Je veux dire, les milliers de migrants qui sont condamnés à la mort, il n'y a même pas besoin, ou qui sont mis dans les camps. Il y a ce livre sur les îles grecques qui ont servi d'île pour les prisonniers politiques sous la dictature et qui aujourd'hui servent de camp pour les migrants. Donc, dans cette de continuité entre le fascisme de la dictature et aujourd'hui les politiques contre les migrants. Donc, on est déjà dans d'autres formes d'incarcération que simplement la prison. C'est une première chose. Il y a une question sur est-ce qu'une commission vérité et réconciliation sur les violences sexuelles serait. Je pense que par qui, quoi, comment, la commission vérité et réconciliation qui a eu, puisqu'elle est posée en parlant de l'Afrique du Sud, a été d'ailleurs en fait, a soulevé énormément de problèmes, même en Afrique du Sud, avec beaucoup de critiques qui ont suivi, qui n'ont pas justement amené quelque chose d'un sentiment de réparation, hein, d'un sentiment de quelque chose qui avait été réparé, peut-être pas d'une réparation totale, mais enfin de quelque chose quand même qui pouvait être envisagé comme étant un peu réparé, et qu'il n'y a pas du tout ce sentiment parce que justement la structure n'avait pas changé. La structure post-apartheid n'a pas énormément changé, même avec la constitution la plus libérale et la plus humaniste qu'il pouvait avoir. Donc on voit bien que ça a à voir avec une justice beaucoup plus large, c'est-à-dire avec la société dans laquelle on vit. Pas simplement justement ce moment de réconciliation. Quelque chose est à vraiment à se confronter sur cette violence qui est faite aux femmes, cette guerre qui est faite aux femmes partout, et qui pose la question. Là, une autre chose, je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi inclure dans cette analyse de la violence les guerres qui continuent à se mener, que l'Occident encourage ou mène, les guerres aux frontières. La militarisation des océans, la militarisation des mers, la question des vies vraiment qui ne sont plus à sauver, des vies qu'on n'a même plus besoin de sauver et qu'on a donc elles sont des vies tuables. Donc c'est même plus des vies criminalisées, il y a la question donc des vies tuables. Je ne vois pas effectivement le système économique extractiviste, il a besoin de terreur, il a besoin de coercition et il a vraiment besoin de terreur aussi. Vraiment, on le voit, il n'y a qu'à lire des choses sur les plantations et les mines aujourd'hui ou sur la manière dont les choses se passent, sur les crimes, hein, policiers, sur la manière dont la police et aussi la montée des fascismes et de l'extrême droite. Donc on voit que finalement, la violence est totalement légitimée, autorisée, banalisée, normalisée et que c'est à ça, pour moi, qu'il faut s'attaquer. Et je pense, oui, que, il y aura sans doute encore des conflits. Une société, il n'y a pas de société sans conflit, mais c'est plutôt la question de la violence qui, aujourd'hui, organise partout et autorise qu'il y ait des vies tuables, des vies qu'on puisse tuer ou emprisonner sans, puisque la prison peut être aussi considérée comme une mort assez lente. Donc, c'est vraiment aujourd'hui pour moi s'organiser contre l'impérialisme, contre le racisme et contre le capitalisme. Je ne vois pas qui justement fabrique ces vies tuables. Pas seulement ces vies jetables, il y avait des vies jetables, mais il y a des vies tuables. Et il y a énormément de vies tuables aujourd'hui, énormément, dont évidemment les femmes. Et les femmes racisées dans le sud global. Donc il y a quelque chose dont on est encore un peu protégé quand on vit en Occident, quand on vit dans le Nord, qui est quand même encore tenu un peu à distance malgré la violence qui règne et qui commence à être de plus en plus systémique. Même quand on voit en France la répression policière maintenant est beaucoup plus s'attaque à tout le monde. Alors, on a vu contre par exemple les violences contre les gilets jaunes, mais il faut vrai, pour parler du système carcéral, il faut voir comment l'extension du système carcéral, pas simplement à cause de la prison, mais du système carcéral pris comme un système pour forcer les gens, pour forcer le plus grand nombre, à l'obéissance à un système d'injustice et d'inégalité. Donc cette coercition prend plusieurs formes. Elle prend et effectivement la question de la surveillance, mais et puis la question des vies tuables aujourd'hui, parce que quand même il y a des milliers de gens qui sont aux portes de l'Europe, bon, parce que quand c'est loin encore, mais aux portes de l'Europe ou aux portes des États-Unis, qui sont absolument tuables, qui n'ont même pas qui disparaissent sans nom, qui meurent sans sépulture.
Voilà, j'ai réussi à récupérer le son.
Non, vous avez perdu le son. Enfin, je ne voudrais pas terminer sur une note trop triste, parce que je pense aussi qu'il faut souligner les luttes qui ont lieu absolument partout contre les violences, qui sont vraiment de plus en plus partout. Et quand je dis partout, justement, pas simplement dans le Nord, mais dans le Sud, et il y a énormément de résistance, et avec aussi de plus en plus le sentiment que cette violence, elle est absolument, elle n'est pas une chose à part, une chose en plus, ou une chose par accident à cause d'une guerre en ce moment, mais qu'elle est absolument inséparable de l'accumulation des richesses, de l'exploitation, de la domination. Donc, les luttes.
Oui, et c'est... Quelque part, c'est un peu ce qu'on essaye de penser à écologie, de cette articulation de toutes ces luttes. Et je retiens l'idée qu'on n'annulera jamais le conflit, et heureusement, hein, parce que c'est important la conflictualité dans des sociétés. Et on est en conflit quelque part quand on milite, mais c'est la façon d'y répondre et la violence qu'on utilise pour répondre qu'il faut éradiquer. Et j'en profite simplement en mot de la fin pour saluer mes collègues qui travaillent sur les violences policières et qui justement se questionnent beaucoup sur la place des technologies et de ce que Gwenola, tu évoquais sur l'extension du carcéral au reste de la société, notamment sur la question très actuelle des bodycams. Donc, je les salue tous et toutes qui travaillent sur cette question. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le timing et je ne voudrais pas vous retenir encore longtemps. En tout cas, je voulais très, très chaleureusement, au nom du GT, du groupe de travail politique criminelle d'écologie qui travaille sur la question carcérale, vous remercier. Et au nom d'écologie dans son ensemble, c'est vraiment un super grand honneur d'avoir pu discuter avec vous toutes les deux ce soir et d'avoir pu en faire profiter les spectateurs et spectatrices de notre page. Donc, vraiment un tout, tout grand merci. Ça va beaucoup nous aider pour nos réflexions et nos positionnements politiques.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Et merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette rencontre et à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre. Mais voilà, de toute façon, c'est une grande œuvre de réflexion collective et voilà, c'est toujours bien de mettre ici quelques petites graines et merci pour cette opportunité.
Effectivement, merci Adèle et merci à toute l'équipe. Et pour ceux et celles qui nous regardent, on se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine, exactement à la même heure, sur le même format, pour parler de capitalisme carcéral et de justice de classe. Donc voilà, on va pouvoir se laisser sur ces derniers mots. Merci à toutes et à tous et puis passez une excellente soirée. Rentrez bien avant le couvre-feu. Faites attention à vous, faites-vous vacciner. Et bientôt, on pourra faire ces événements en chair et en os, j'espère. Bonne soirée, tout le monde.
Au revoir.